Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis Olivier Delacroix et je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure en compagnie de ma camarade Ombline.
Bonjour Olivier.
Ça va bien ?
Ça va bien, bonjour à tous.
Ici c'est, comme vous le savez, votre heure, nous partageons vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou plus difficiles, car votre vécu nous intéresse. Des douleurs pelviennes violentes, des règles abondantes, un risque d'infertilité, une femme sur 10 serait atteinte d'endométriose, une maladie dont on commence seulement à parler. Une maladie dont les symptômes sont propres à chacune et qui touche les organes reproducteurs de la femme. La plupart des patientes attendent entre 6 et 10 ans avant d'avoir le bon diagnostic, tant ces symptômes sont divers. Pour de nombreuses femmes, c'est à l'arrivée de la puberté que les premières manifestations apparaissent. Règles extrêmement douloureuses, saignements. C'est aussi pour cela qu'elle est si difficile à déceler, cette maladie. Bon nombre de femmes atteintes d'endométriose racontent l'incompréhension et le manque de considération de leur douleur, sauf qu'une endométriose prise en charge trop tard peut entraîner une infertilité. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est et comment vivre avec ? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
On vous écoute comme chaque jour au 3921, le standard d'Europe 1. N'hésitez pas à le composer, 3921, 50 centimes la minute. N'hésitez pas à nous écrire, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Magali sur l'antenne d'Europe 1 au 3921. Bonjour Magali.
Bonjour Olivier.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors j'habite à Orange et j'ai 36 ans.
D'accord. Alors c'est lorsque vous avez arrêté de prendre la pilule, Magali, pour avoir un enfant avec votre compagnon que l'enfer a commencé. Est-ce que vous aviez des règles douloureuses avant ? Une difficulté à vivre votre quotidien pendant votre cycle ?
Non, pas spécialement. J'avais pas de règles douloureuses. J'avais juste des douleurs parfois après rapport.
Oui.
Et des pertes. Je pouvais avoir des pertes de sang et des douleurs au moment de l'ovulation.
Mmh. Voilà. Une fois que vous avez arrêté la pilule, vous avez dû faire face à des douleurs particulières?
Oui, des douleurs très violentes. Des douleurs en allant aux toilettes, des douleurs, comme je vous le disais, après les rapports.
Oui.
Voilà, mes douleurs qui étaient expliquées par mon gynécologue de famille, je dirais, puisque c'est lui qui a accouché ma maman, mm-hmm. de mes frères et sœurs. Donc lui expliquait ça tout à fait normalement. Pour lui, c'était normal d'avoir mal pendant l'ovulation ou pendant les rapports. Il disait que mon mari devait y aller trop fort.
D'accord.
Voilà, ses explications.
Vous avez eu du mal à avoir un enfant, au point que vous avez fini par demander un bilan d'infertilité. Qu'est-ce qu'on vous a dit
Alors, un bilan d'infertilité, ça comporte plusieurs examens, dont une radio des trompes.
Ouais.
Moi, ça a révélé en fait ce qu'on appelle un hydrosalpinx, c'est-à-dire que j'avais une trompe qui était énormément dilatée.
Oui.
Donc, ça prouvait une infection. Et on m'a dit, sans ménagement, que j'avais dû attraper une maladie sexuellement transmissible non soignée.
Mmh.
Voilà, donc on m'a mise sous antibiotiques, mon mari aussi. Et on m'a dit, on va vous opérer par cœlioscopie pour essayer de sauver la trompe ou sinon l'enlever.
Mmh. Et
voilà.
Et donc, quelle a été la suite ? Qu'est-ce que les médecins ont fini par découvrir ? Est-ce qu'ils l'ont découvert lors de cette opération ?
Oui. Alors en fait, quand je me suis réveillée, la trompe malheureusement avait dû être retirée parce qu'elle était trop abîmée.
Mmh.
La seconde était également bouchée, mais ils avaient réussi à la sauver. Et on m'a dit, vous êtes atteinte d'endométriose.
Mmh.
Tous mes organes en fait étaient collés entre eux, tous mes organes pelviens.
Mmh.
Donc les ovaires adhéraient à l'utérus. J'avais énormément d'adhérence. Donc le médecin était assez choqué que je ne vivais pas pliée en deux. Et il m'a dit, voilà, on va vous faire maintenant deux piqûres de ménopause artificielle. Et après ça, vous serez guérie.
Mmh. Et,
voilà.
Et comment ça s'est passé, cette ménopause artificielle ?
Alors, très mal, parce que avec tous les effets secondaires qu'on imagine. Donc, prise de poids, bouffée de chaleur insupportable, irritabilité, fois mille.
Mmh.
Voilà. Et puis c'était censé durer 6 mois et en fait les effets ont duré quasiment un an.
Mmh. Vous avez été diagnostiqué, il y a 10 ans. Hein.
Oui.
On parle de cette maladie depuis seulement quelques années. Est-ce que vous avez traversé une sorte de désert où vous avez dû vous sentir toute seule en fait ?
Oui, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, parce que, en fait, à chaque fois que j'allais chez le spécialiste, on me trouvait encore de nouvelles atteintes. C'était toujours de plus en plus d'examens médicaux. voilà, autour de vous, la vie continue. Vous avez l'impression que le ciel s'effondre sur vous. Mm-hmm. Voilà, des enfants naissent, des femmes tombent enceintes, ce qui est tout à fait logique, hein, c'est la vie. Et vous, pendant ce temps-là, tout s'écroule en fait. Oui. Tout s'écroule.
Sans vous donner vraiment de réponse précise. Hein,
Ben non, puisqu'il n'y a pas de traitement à ce jour. La seule chose qu'on puisse faire, c'est soulager. Moi, on m'avait dit, on va vous mettre sous pilule, mais pour moi, c'est hors de question, puisque moi, mon but, c'était d'avoir un enfant. Donc voilà, moi, j'ai tenu toutes ces années vraiment, parce qu'en tête, mon but, c'était d'avoir un enfant. Mmh. Malgré toutes les douleurs, j'ai tenu sans traitement, parce que mon but à moi, c'était d'avoir mon enfant.
Mmh. Votre but à vous, c'était d'avoir un enfant. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à force d'y croire et d'être solide comme vous l'avez été, c'est que vous avez réussi à avoir un enfant malgré tout. C'était assez inespéré, hein, selon les médecins.
C'était miraculeux même, selon les médecins. Parce qu'en fait, avec mon mari, on a eu quand même un très lourd parcours médical.
Ouais.
On a fait beaucoup de fécondations in vitro qui se sont soldées par des échecs parce qu'en fait, mes ovaires ne fonctionnaient plus. Et on m'a dit en France, il faut que vous passiez par le don d'ovocytes parce que vous n'avez plus assez d'ovules et ils sont de très mauvaise qualité. Mmh. Donc, on a dû aller en Espagne parce qu'en France, si vous n'avez pas de personnes qui vous parrainent, pour vous faire remonter en tête de liste, on ne vous inscrit même pas sur les listes d'attente, tellement il y a de demandes et très peu de donneuses. Donc on est allé en Espagne, par deux fois. Ça s'est soldé par des échecs, malheureusement. Et l'année dernière, on a pris la décision de quitter la région parisienne pour venir s'installer dans le Vaucluse. Et deux mois après, j'étais enceinte naturellement.
Bon. Vous avez encore des douleurs aujourd'hui ?
Alors, j'ai des douleurs qui sont quand même moindres. Je suis sous pilule en continu.
Oui.
C'est pas du tout ce que je voulais moi, puisque moi je me sens beaucoup mieux sans aucun traitement hormonal. Mmh. Mais malheureusement, comme j'ai dû accoucher par césarienne, c'est une obligation de ne pas retomber enceinte. Mmh. Donc je prends la pilule en continu. J'ai de temps en temps des douleurs quand même localisées au niveau des ovaires, puisque j'ai quand même une très grosse atteinte au niveau des ovaires et aussi digestive.
Oui.
Mais voilà, c'est quand même tout à fait gérable. J'arrive tout à fait à vivre avec ces douleurs-là. Oui.
Merci beaucoup Magali pour votre témoignage. Dans quelques instants, nous accueillerons Stéphanie. Sa sœur a été diagnostiquée avant qu'elle-même ne sache qu'elle était elle aussi atteinte de l'endométriose.
Europe 1. Vous vivez ce que vit Magali qu'on vient d'entendre. C'est l'histoire d'une de vos proches. Peut-être on a envie de vous entendre aussi. On parle de l'endométriose cet après-midi et on vous attend au 39 21 50 centimes la minute. Vous nous écrivez sur Twitter hashtag Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1 et nous parlons de la maladie qu'est l'endométriose, un combat long et puisant contre la douleur que mènent de nombreuses femmes, contre l'incompréhension des autres aussi. Est-ce que c'est votre cas ? Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous avions Magali au 39-21 qui nous expliquait avoir été diagnostiquée en 2008 à un moment où on parlait encore très très peu de cette maladie et combien elle s'était sentie seule. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a enfin réussi à avoir un enfant. Et nous sommes maintenant avec Stéphanie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Stéphanie.
Bonjour Olivier.
Alors vous avez 32 ans Stéphanie, votre sœur a été diagnostiquée malade d'endométriose, il y a 3 ans après un très long parcours. Cela a commencé dès la préadolescence pour elle.
Oui, tout à fait. Ma sœur a connu une puberté précoce dès l'âge de 10 ans.
Oui.
Et a rapidement connu des cycles abondants et douloureux, l'empêchant de suivre parfois l'école. Et jusqu'à, 16 ans environ, la première pilule qui a un petit peu atténué les choses.
Ouais.
Pour une reprise des douleurs de plus belle vers 20 ans, à l'arrêt de la pilule, avec des fortes douleurs lombaires, puisque j'ai vu ma sœur marcher avec une béquille pendant 2 ans. Douleur qu'on attribue.
Ouais.
Oui, voilà, elle marchait qu'une béquille puisqu'elle avait très très mal au dos.
Ouais.
Et on attribuait cela à une hernie discale à l'époque, mais qui n'était pas assez importante pour être opérée. Et pendant ce temps-là, des douleurs très récurrentes, beaucoup de fatigue, beaucoup de difficultés donc pour sa scolarité, pour sa vie professionnelle et pour sa vie personnelle puisque elle ne parvenait pas non plus à tomber enceinte.
Mmh. Votre sœur a quel âge, pardonnez-moi ?
Aujourd'hui, elle a 27 ans.
Elle a 27 ans. Donc, c'était il y a combien de temps, qu'elle marchait avec une béquille ?
Elle avait 22 ans.
Elle avait 22 ans, d'accord. Donc, il y a 5 ans, on connaissait quand même déjà cette maladie.
Oui, mais personne, en tout cas les médecins qui la suivaient à l'époque, ne faisaient de lien entre tous ces symptômes et l'endométriose. Mmh. Au contraire, c'était plutôt... En tout cas, le gynécologue qui la suivait à l'époque ne faisait pas de lien. Et comme souvent dans le cas des femmes qui ont de l'endométriose, on dit que c'est normal, que c'est dans la tête, mmh. et que c'est normal d'avoir mal. Mmh.
Alors, quand elle a voulu avoir un enfant, comme Magali, hein, que nous avons eu en première partie de l'émission, c'est là que tout a empiré, en fait. Elle a eu de violentes douleurs, cette sciatique et ses hernies ont visiblement continuer.
Ouais, c'est un processus évolutif, donc ouais. Progressivement tout s'installe, on ne sait plus trop, on ne sait plus quel symptôme est le premier au bout d'un moment, tellement que c'est récurrent. Mmh. En tout cas, là, après, ce qui l'inquiétait, c'était le fait qu'elle ne tombait pas enceinte et que chaque cycle était douloureux, et qu'elle avait aussi des kystes ovariens,
ouais.
de plus en plus gros. Mmh. Mais que ça n'alertait aucun médecin. Enfin, en tout cas, le gynécologue qui la suivait à l'époque.
Mmh. Ce qui est assez incroyable tout de même, parce que même les kystes ovariens, on ne peut pas garder ça très longtemps. Enfin, en tout cas,
non,
ça n'est pas conseillé.
Non, surtout qu'elle en avait entre 5 et 7 cm de diamètre.
Mmh. Un jour, elle a eu une douleur tellement vive hein, qu'elle a dû aller aux urgences.
Oui.
On croyait qu'elle avait en fait une crise d'appendicite. Racontez-moi ce qui s'est passé après.
Oui, on était donc fin 2015, elle se rend aux urgences pour des douleurs abdominales très violentes. On l'hospitalise pour une opération de l'appendicite. Elle a été jusqu'au bloc opératoire et sitôt ouverte, si je peux m'exprimer ainsi, elle a été recousue.
Oui.
Puisque le chirurgien a découvert que ce n'était pas du tout l'appendicite. Mmh. Et là, c'est la... Je crois qu'elle n'a même pas entendu le mot endométriose à ce moment-là, puisqu'elle a été tout de suite redirigée sur le CHU le plus proche avec un centre spécifique dédié à l'endométriose. Et que c'est début 2016, lorsqu'elle a vu un professeur spécialiste de la maladie, qui lui a mis pour la première fois, qui a posé le premier diagnostic en lui parlant d'endométriose, à un stade déjà très avancé.
Mmh. Oui, puisque en fait c'était déjà très avancé. Vous
oui.
confirmez ça ouais.
Ah oui, elle a été opérée dans la foulée une première fois et elle a resubi une opération cette année avec des atteintes très importantes ovariennes, trompes, intestinales.
Est-ce que pour vous, tout se passait bien en fait est-ce que, parce qu'on parle beaucoup de votre sœur, on verra ensuite hein, quelle a été la suite de votre histoire à toutes les deux. Mais
oui.
pour vous, en fait, tout se passait bien tout le temps que votre sœur souffrait
Globalement, oui, je ne peux pas dire que ce soit... C'est vraiment pas le même parcours et c'est pour la raison pour laquelle, au début, je n'avais pas du tout imaginé que je puisse être atteinte. Une puberté à un âge normal, pas de douleur qui m'empêche en tout cas d'aller à l'école, adolescente. Mmh. Et puis, j'ai pris la pilule pendant 15 ans, sans aucun problème. Ne serait-ce que des douleurs... de temps en temps, mais qui n'est pas plus forte, j'imagine, que d'autres femmes. Mmh. Donc moi, à côté, oui, tout se passait bien.
Mmh. En ayant, en tout cas, une sœur qui souffrait tellement que
oui.
votre sœur, il est certain que vous deviez minimiser le peu de ce qui vous arrivait. Restez avec nous en ligne, Stéphanie. Dans quelques instants, nous allons continuer à évoquer votre histoire, celle de votre sœur et la vôtre.
Et Cécilia nous a appelé 39-21. Cécilia, 21 ans. Dès mes premières règles, j'ai compris que ce n'était pas normal, une douleur abominable jusqu'à l'évanouissement. Mais le plus douloureux, c'était les autres qui pensaient que je simulais, que je voulais me faire plaindre. Un peu trop douillette, soi-disant.
Europe 1.
Vous souffrez d'endométriose, vous avez appris à vivre avec la maladie. On vous écoute au 39-21. Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes atteinte d'endométriose, cette maladie qui pose encore beaucoup de questions, qui vous fait souffrir, qui a pu entraîner chez vous une infertilité. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, 39-21 pour nous appeler.
Et nous sommes toujours avec Stéphanie qui nous racontait combien sa sœur avait souffert de cette endométriose. Stéphanie, votre sœur vous parlait-elle du fait que vous pouviez avoir vous aussi une endométriose ?
Plus que ça. Si j'ai eu la chance d'avoir un diagnostic assez tôt, c'est grâce à ma sœur. Mmh. Et vraiment, elle a un rôle prépondérant. dans tout ça. Donc c'est vrai que même mon histoire ne peut pas aller sans la sienne, puisqu'en effet, c'est la principale personne qui a tellement insisté pour que je fasse un dépistage, on peut appeler ça comme ça, lorsque je lui parlais des symptômes qui commençaient à se déclarer. Voilà, elle se renseignait, elle, de son côté, auprès des spécialistes qui la suivent et qui lui expliquaient qu'en effet, les sœurs des patientes atteintes ont un risque 6 fois supérieur de développer la maladie. Oui. Donc, elle insistait tellement que, et moi, vu mes symptômes qui ont fini par se déclarer, suite à un arrêt de pilule, j'ai pris les choses en main et donc j'ai fait les démarches pour. Donc, c'est vraiment grâce à elle.
Vous êtes désormais engagé pour la mise en lumière de l'endométriose au sein de l'association EndoFrance. Pourquoi avoir eu ce besoin-là? Est-ce parce que vous avez conscience qu'aujourd'hui, là, on ne parle pas encore assez de cette maladie?
Oui, tout à fait. C'est en grande partie la raison. Et c'est aussi parce que j'ai essayé d'accompagner ma sœur dans ses démarches et dans sa souffrance, et aussi dans les solutions, hein, puisque voilà, c'est un combat au quotidien. Et parfois, j'étais assez interloquée des avis qu'elle pouvait avoir du corps médical avant d'être prise en charge. Une fois que, je pense qu'une fois qu'on est prise en charge par un service spécialisé, les choses déjà avancent un peu. Mais on lui a dit des choses tellement étonnantes, tellement aberrantes parfois, avant, que ça a vraiment motivé mon engagement et le fait moi-même dans mon parcours quand j'ai voulu savoir si je l'avais ou pas. J'ai dû me débrouiller seule, faire des démarches seule pour trouver un spécialiste, un radiologue capable de voir les lésions d'endométriose. Et voilà, cet isolement m'a vraiment donné envie de m'engager et puis voilà, pour accompagner les femmes qui se posent des questions, qui ne savent pas toujours vers qui s'adresser, parce que ce n'est pas facile.
Et pour aider ces femmes justement à trouver de plus en plus facilement des spécialistes. Merci beaucoup Stéphanie. Justement, nous allons accueillir le docteur Benjamin Merlot qui va pouvoir nous donner ses éclairages sur le chemin à suivre lorsque on pense qu'on est atteint d'endométriose. Le docteur Benjamin Merlot qui est gynécologue chirurgien à la clinique Tivoli Ducos à Bordeaux et qui a conçu un hôpital de jour dédié à la prise en charge de l'endométriose. Bonjour docteur, merci d'être avec nous.
Merci à vous. Bonjour monsieur Lacroix.
Bonjour. Que se passe-t-il dans le corps d'une femme atteinte d'endométriose? Je vous demande de vous adresser à toutes celles qui voilà, ont quelques doutes et qui ne savent pas encore très bien que se dire en fait.
Bien sûr. Sur le plan de la maladie, la théorie la plus probable, c'est que sous l'effet des contractions qui sont très importantes au niveau pendant les règles, au niveau de l'utérus, le sang va passer par les trompes, ce qu'on appelle le reflux rétrograde, et va se retrouver en situation pelvienne, dans le bas du ventre. Et chez les patients qui vont développer une endométriose, ces cellules donc, qui viennent des règles vont créer une inflammation qui va être majeure, qui va expliquer les premiers symptômes, qui sont surtout les douleurs pendant les règles. Donc c'est le premier symptôme, c'est l'inflammation. Puis au fur et à mesure du temps, ces cellules vont pouvoir s'agripper au tissu, développer des adhérences, et puis des kystes, des nodules, qui vont faire évoluer les symptômes de la patiente vers des douleurs de plus en plus importantes, des douleurs en dehors des règles, des douleurs pendant les rapports, et puis qui vont créer des adhérences majeures, qui vont être aussi la cause de l'infertilité ultérieure.
Mais docteur, comment expliquer que les symptômes soient si différents d'une femme à l'autre?
C'est le problème avec l'endométriose, c'est que les douleurs sont très différentes, les symptômes d'ailleurs sont très différents, et l'intensité des douleurs est très différente. On dit souvent que dans l'endométriose, la douleur n'est pas liée à l'atteinte. C'est-à-dire qu'on a des patients avec une petite atteinte qui ont beaucoup de douleurs, et on a des patients qu'on découvre tardivement, notamment avec douleurs très importantes, avec des douleurs peu importantes qui ont caché un petit peu la maladie, et on la découvre tardivement. Et puis la diversité est due à la diversité des atteintes. On peut avoir une atteinte de l'utérus, des intestins, directement en arrière, de la vessie, qui ont des symptômes très divers, d'où la difficulté parfois du corps médical à faire le diagnostic.
Et d'où la difficulté à faire la différence, je suppose, entre des règles douloureuses dites classiques et une endométriose.
Bien sûr, surtout qu'on parlait tout à l'heure des adolescentes. Hein, vous posiez très, très justement la question des douleurs au début des premières règles. Oui. C'est vrai que la plupart des patientes, on dit 80% des jeunes filles ont des règles douloureuses. C'est très difficile de savoir lesquelles vont évoluer vers une endométriose ou lesquelles sont juste des règles douloureuses. Donc c'est vraiment, le diagnostic est assez fin est parfois difficile à faire.
Docteur Merlot, vous restez avec nous. Nous allons continuer à parler de l'endométriose dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes gynécologue chirurgien à la clinique Tivoli du Causse à Bordeaux et que vous y aviez conçu un hôpital de jour dédié à la prise en charge de l'endométriose. Dans quelques instants, nous accueillerons aussi Leslie sur l'antenne d'Europe 1 et on aura l'occasion de vous faire échanger avec elle.
Europe 1. Comment vivre avec une endométriose? Comment ne pas se laisser submerger par la maladie? Vous nous racontez votre histoire. On vous écoute sur Europe 1 au 39-21. Olivier Delacroix revient, nous continuons de parler sur Europe 1 avec vous de l'endométriose, cette maladie qui vous fait souffrir, qui est par moments handicapante, qui provoque de l'incompréhension dans le regard des autres et qui a peut-être été synonyme pour vous de parcours du combattant quand vous avez voulu tomber enceinte. On vous attend et vous écoute au 39-21, on vous lit sur Twitter, hashtag Europe 1. Téléphone tout de suite et un autre monde. C'est la chanson qui donne son nom au disque, la chanson de conclusion de l'album de 1984. Téléphone avec un autre monde. Vous êtes atteinte d'endométriose. Comment arrivez-vous à vivre avec cette maladie? Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Nous sommes toujours avec le docteur Benjamin Merlot, gynécologue chirurgien à la clinique Tivoli du Causse à Bordeaux, qui a conçu un hôpital de jour dédié à la prise en charge de cette maladie. Docteur, on entendait Stéphanie nous dire que certains médecins minimisent dès le plus jeune âge les symptômes et les douleurs de ces jeunes femmes. Pourquoi cette maladie n'est pas encore assez reconnue?
Enfin, j'ai dit une question assez difficile. Je pense que cette maladie commence à être médiatisée, ce qui est bien. Elle a été longtemps méconnue parce que je pense qu'on a sous-estimé l'impact de cette maladie et la douleur des femmes. Mmh. Et, la parole se libérant, les femmes ont commencé à dire vraiment qu'elles ont mal pendant les règles, qu'elles ont mal pendant les rapports, ce qui nous est apparu comme tout à fait anormal. Et avec plusieurs critères, on n'a peut-être pas tout détaillé, mais notamment l'arrivée de l'IRM, oui, et l'augmentation de l'accès à cette imagerie, on a permis de dépister de plus en plus de maladies. Mmh. Et c'est vrai que c'est une maladie où les médecins ont été assez peu formés ces 20 dernières années dans leurs études. On en parle assez peu. C'est vraiment un petit item dans les 6 ans d'années théoriques. Et donc je pense qu'il y a une méconnaissance globale par manque de formation lors du parcours de médecin.
Alors avant de commencer, avant de parler de soins et de comment soulager ces symptômes, parlons des conséquences de l'endométriose pour ces femmes. Que sont-elles ces conséquences?
Les conséquences, il y en a deux essentiellement majeures. C'est bien sûr les douleurs pelviennes chroniques, c'est-à-dire que les patientes qui ont des douleurs quasi permanentes, en tout cas liées très liées aux règles, mais aussi en dehors des règles, qui a un impact majeur sur tout leur environnement social, hein, professionnel, vie de couple, etc. Hein, donc un impact majeur sur leur qualité de vie. Oui. Et puis le deuxième problème, c'est que c'est la première de d'infertilité. Mm-hmm. Donc c'est les deux gros problèmes, c'est les douleurs plus les problèmes de fertilité, c'est vraiment la double peine. Hein.
Alors, avec cette antenne que vous avez conçue à cet hôpital dédié à la prise en charge de l'endométriose, vous soignez cette maladie, docteur. Vous soulagez les symptômes. Comment la soigner, cette maladie, déjà?
Bien sûr, c'est-à-dire que avant de soigner cette maladie, le but, c'est d'en faire le tour et d'avoir un diagnostic complet. Les deux histoires de Stéphanie et Magali, si je me souviens bien, sont malheureusement assez classiques. Hein. C'est des patients qui peuvent souffrir plusieurs années avant d'avoir un diagnostic avec un problème de fertilité derrière. Donc c'est évident que si on veut faire un point global sur la patiente, il faut prendre tout ce passé. Mm-hmm. Et la consultation qui manque un petit peu de temps, cet hôpital de jour permet d'avoir un horizon de l'environnement de la patiente. C'est-à-dire qu'elles vont voir un médecin de la douleur, et quand on a des douleurs depuis 10 ans, c'est à mon avis essentiel. Oui. Elles vont voir un psychosexologue qui va faire un petit peu le tour du retentissement psychologique et aussi à cause des douleurs dans le rapport, aussi la vie de couple, la vie sexuelle. Mm-hmm. Donc ça, c'est à part entière. Et puis elles vont voir aussi une kinésithérapeute ostéopathe qui va juger un petit peu de l'état du tension musculaire qui est souvent chez ces patientes avec un bassin qui est souvent au niveau musculaire très tendu, mm-hmm, qui participe au phénomène douloureux. Plus chez les patients qui vont être opérés derrière, notamment des chirurgies lourdes dont le centre est spécialisé, notamment en digestive, elles vont voir un chirurgien digestif qui expliquait aussi la maladie, elles vont voir un anesthésiste, elles vont voir un médecin de la fertilité qui va leur donner des conseils, et sur une demi-journée comme ça, elles vont avoir un bilan complet de leur état de santé et du retentissement de l'endométriose sur leur vie.
Ce qui, à mon avis, déjà les soulage, parce que en fait, ces femmes, enfin, ont quelqu'un en face d'elles qui semble comprendre quel enfer elles vivent.
évidemment, elles ont l'impression qu'on les écoute et qu'on leur consacre une demi-journée entière, c'est quasiment de 8h30 à 14h, qu'on leur consacre une demi-journée juste à l'écoute, au diagnostic et au retentissement sur leur qualité de vie. Donc, bien sûr, déjà, l'écoute est primordiale et participe derrière à enchaîner sur, bien sûr, sur les soins.
Restez en ligne avec nous, docteur Malo. Je rappelle que vous êtes gynécologue chirurgien à la clinique Tivoli du Causse, où vous avez conçu un hôpital de jour dédié à la prise en charge de l'endométriose. Dans quelques instants, nous accueillerons Leslie sur l'antenne d'Europe 1. Son quotidien a été un véritable enfer à cause de cette maladie.
Et notez bien, la première course dédiée à l'endométriose, l'EndoRun, va se dérouler le dimanche 18 novembre à Paris. C'est organisé par l'association EndoMind. 10 km dans le bois de Vincennes pour soutenir la recherche en présence de la chanteuse et militante Imani.
Europe 1.
L'endométriose, cette maladie handicapante incomprise, vous en êtes atteinte? Comment arrivez-vous à la gérer au quotidien? Vous nous racontez au 39-21. Comment s'épanouir quand on est atteinte d'endométriose? Comment arrivez-vous à prendre soin de vous? Comment cette maladie régit votre vie? Vous racontez votre histoire à Olivier Delacroix au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Leslie. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Leslie.
Bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'appelle de Paris et j'ai 37 ans aujourd'hui.
D'accord. Alors quand vos douleurs ont commencé, vous aviez quel âge, Leslie?
Ça fait à peu près une petite dizaine d'années.
Mmh. Et ça s'est empiré en 2010, je crois savoir, après une période d'un an sans règles. Les douleurs étaient de quelle intensité?
En fait, c'est une douleur qui prend au niveau de tout ce qui est utérus, etc. Et c'est une douleur qui monte, qui se diffuse dans tout le corps, au point où ça m'arrivait en fait d'avoir la respiration coupée par la douleur et de tomber dans les pommes au boulot, quoi. Donc à l'époque, c'était un petit peu compliqué. Ouais. Mmh. Impossible de gérer en plus les moments où ça prenait, parce que ça prenait vraiment d'un coup et voilà.
Et rien ne vous soulageait, hein, je crois.
À l'époque, non. À l'époque, rien ne me soulageait, à part rester après chez moi, dans le lit, à attendre que ça passe, mais rien ne me soulageait.
Vous avez eu un désir d'enfant avec votre ex-mari, mais ça ne fonctionnait pas. Vous avez eu du mal à vivre cette période, au point que vous avez fini par prendre du poids. Ce que vous ont reproché les médecins, je crois.
Oui, en fait, il est arrivé un moment où, malgré les douleurs, par contrôle, parce que je faisais des contrôles quand même tous les ans, on m'a découvert un kyste, alors que à l'époque on m'avait dit que c'était un kyste fonctionnel. Néanmoins, j'arrivais toujours pas à avoir d'enfant. J'ai quand même eu un traitement pendant 3 mois à base d'hormones pour stimuler les ovulations, etc. Ça n'a strictement rien donné. Et bon, effectivement, à un moment donné, l'horloge biologique tournant, il y a rien qui arrivait. Vous comprenez pas pourquoi. Et c'est vrai que pour moi, oui, ça a été compliqué à gérer et être dans l'inconnu, de savoir qu'il y a quelque chose qui cloche, mais pas savoir quoi. Mmh. Ça a été vraiment compliqué. Alors effectivement,
comme Benjamin Merleau le disait tout à l'heure, jusqu'à ce qu'on on finisse par vous prescrire une IRM. Hein. En fait, cette IRM, elle était combien de temps après le début des symptômes?
Alors moi, mon IRM, je l'ai eu en 2014.
2014.
Donc 4 ans et demi après le début. Ouais. Mmh. Et pourtant, malgré cette période de 4 ans, voilà, j'ai été voir beaucoup de spécialistes sur Paris, spécialistes dans l'infertilité, etc. Et malgré ça, alors le diagnostic qu'on me plantait, c'était c'est rien, avoir des règles douloureuses, madame, c'est normal, il faut peut-être pas en faire trop. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, mais en même temps, vous avez pris du poids. Alors, le poids empêche d'avoir des enfants. Enfin, ce genre de choses qui... Voilà, vous vivez... Enfin, ça a été compliqué parce que moi, j'ai vécu avec une sensation que quelque chose ne fonctionnait pas au fond de moi.
Bien sûr.
Pas savoir quoi. Et heureusement, j'ai un médecin traitant, vous voyez, de ville, qui est juste formidable et avec qui j'ai échangé beaucoup. Et qui m'a dit, par acquis de conscience, on va faire un IRM, on va essayer de creuser. Et c'est en fait comme ça qu'on a découvert que j'avais de l'endométriose. Mmh.
C'est ce qu'a révélé cet IRM. Vous avez décidé aujourd'hui de tenter d'avoir un enfant par la fécondation in vitro. Mais je crois savoir que vous ressentez beaucoup de culpabilité. Racontez-moi pourquoi.
Parce que en fait, je me suis fait opérer parce que j'ai été suivie après à Paris par un grand professeur qui a été, enfin, qui m'a fait une prise en charge juste super, qui m'a remis d'aplomb, comme on peut dire.
Ouais.
Et c'est vrai que pendant un an et demi après l'opération, j'ai vécu un an et demi nickel, plus de douleur, enfin vraiment, mon quotidien avait changé. Et il m'avait dit, voilà, vous avez une chance sur deux de tomber enceinte naturellement. Mmh. Et effectivement, un an après l'opération, je suis tombée enceinte naturellement avec mon conjoint avec qui je suis actuellement. Et sauf que ça restera toute ma vie gravée. C'était en janvier 2017. Il avait beaucoup neigé. Et puis bon, ben voilà, je fais pas attention. Je savais pas en plus que j'étais enceinte à ce moment-là. Je descends les escaliers de chez moi et je glisse dans les escaliers et je fais une très grosse chute. Mmh. Et peu de jours après, ben, j'ai perdu l'enfant. Mmh. Et ça a été... sur le moment, je n'ai pas, compris ce qui se passait.
Vous n'avez pas réalisé.
C'est quelques mois après, en fait, que j'ai réalisé. Et surtout que j'ai réalisé que ça a été peut-être pour moi la seule chance d'avoir un enfant naturellement. Et que je me suis culpabilisée de me dire, mais j'aurais dû prendre soin de moi, j'aurais dû faire attention et de me dire, bah voilà, aujourd'hui je ne peux pas donner et je ne pourrais peut-être pas donner parce que la fille, voilà, les pourcentages de réussite sont quand même pas très glorieux.
Mais parce que Leslie, si vous avez écouté le début de l'émission, Stéphanie était intimement persuadée des mêmes choses que vous et elle a fini par tomber enceinte et avoir un enfant. Laissez la vie aller et j'espère que voilà, je vous souhaite d'y arriver. Merci en tout cas pour votre témoignage au 3921. Dans quelques instants, nous allons accueillir Suzy, sa fille âgée de 36 ans, est touchée par cette maladie chronique destructrice depuis 4 ans.
Europe 1.
Comment vivre avec une endométriose? Comment ne pas se laisser submerger par la maladie? Vous nous racontez votre histoire, on vous écoute sur Europe 1, 3921. Jusqu'à 16h, vous êtes avec Olivier Delacroix et vous composez le 39-21 pour nous raconter votre histoire. Vous êtes atteinte d'endométriose, cette maladie qui vous fait souffrir, qui est difficile à déceler. On continue de vous écouter. Et voici Patrick Bruel, le nouveau Tout recommencer sur Europe 1.
Oh, j'aimerais tout recommencer. Je me sens nue, même tout habillée. Tu te retournes et moi je disparais.
L'album s'appelle Ce soir on sort, il paraîtra vendredi. Il a été produit en grande partie par Vienne et Patrick Bruel avec Tout recommencer. On poursuit sur Europe 1, vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons de l'endométriose.
Et nous accueillons maintenant Suzy au 3921. Bonjour Suzy, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Bonjour, moi j'ai 70 ans, je vous appelle de la Normandie, la Manche.
La Manche.
Donc,
la basse Normandie.
Voilà, donc ce n'est pas pour moi. Parce que moi, je n'ai pas eu cette maladie, mais c'est pour ma fille.
Pour votre fille qui est aujourd'hui âgée de 36 ans. Hein,
Suzy. Tout à fait, monsieur.
Mm-hmm. Elle est touchée par cette maladie que vous dites chronique et destructrice.
Oui, complètement.
Vous êtes donc spectateur en tant que proche, en tant que parent. Comment est-ce que vous vivez cela?
Ben, c'est très dur. Je dois avouer que bon, on vit la maladie au quotidien avec son enfant. Moi, ça l'a prise au moment de ses règles.
Oui.
On l'a soignée pour des règles douloureuses. Or, il s'est avéré qu'elle s'est retrouvée avec le foie qui a triplé de volume, les abcès aux reins et tout. Donc, il y a eu des gros, gros soins pendant 2 mois et demi. Mais on ne trouvait pas que c'était l'endométriose. Et puis après, ben, elle continue à prendre des médicaments. Ensuite, elle a vu un médecin pour le foie qui lui a dit non, il ne faut plus du tout prendre ces médicaments. Quelqu'un s'est couché sur son cas, donc il a fallu retirer la vésicule. Il a fallu lui retirer aussi l'appendicite qui était infecté. Enfin, elle a suivi des tas d'opérations. Finalement, elle a trouvé quelqu'un. Un très très bon chirurgien à Thonon qui a trouvé sa maladie, qui l'a détectée et qui déjà l'a opérée une première fois.
Mmh.
Ensuite, ben, elle a voulu faire des FIV. Malheureusement, elle en a fait 4 qui n'ont pas prise.
Mmh.
Donc là, elle a refait une IRM parce qu'elle souffre tout le temps.
Oui.
Et là, elle repasse sur une autre opération dans 15 jours. Mmh. Voilà, donc je ne sais pas là ce qu'on va retirer parce qu'il lui a dit c'est de la vraie dentelle là-dedans.
Oui.
Donc, si vous voulez, cette opération, c'est quelque chose de très lourd parce que vous ressortez. Donc, ce que peut-être les jeunes femmes n'ont pas dit parce que je n'ai peut-être pas tout entendu, vous vous sondez à vie.
Oui.
Et ça, c'est bon, vous allez travailler, il faut emmener tout votre matériel, il faut que tout soit stérilisé, il faut que tout soit propre, il faut, vous pouvez pas aller dans un restaurant et puis aller si c'est sale, enfin des choses comme ça. Donc, c'est à surveiller continuellement. À chaque instant, vous devez faire attention, quoi, parce que vous risquez des infections urinaires. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que pour une grossesse, les parents, on ne peut rien faire. Mais il y a des cousines qui se proposent ou des sœurs qui se proposent de porter cette grossesse. Mais en France, on ne peut pas.
Oui.
Ce n'est pas accepté. Mmh. Or que c'est le sang direct. C'est, des jeunes, c'est vraiment, c'est ça qui est embêtant parce qu'il faut aller à l'étranger et accepter que ce soit quelqu'un d'autre qui porte votre enfant.
Ouais.
Or que ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas de la famille.
En tout cas, voilà, votre souffrance, à vous, on l'entend aussi, hein, Suzy, puisque vous, on sent que vous voudriez devenir grand-parent et que cela passerait bien évidemment par le bonheur de votre fille de devenir maman. Je me retourne vers vous, docteur Merlot. Je rappelle que vous êtes gynécologue chirurgien à la clinique Tivoli du Causse à Bordeaux. On a parlé tout à l'heure de comment soulager les symptômes. Et d'ailleurs, voilà, c'était assez rassurant de vous entendre parler de tous les spécialistes qui pouvaient soulager les symptômes les symptômes de douleur. Mais comment peut-on soigner cette maladie? Est-ce qu'elle se soigne d'abord? Et où en est-on de la recherche aujourd'hui, docteur?
Oui, elle se soigne. Comme on l'a évoqué depuis le début de l'émission, c'est une maladie complexe qui nécessite une prise en charge multidisciplinaire.
Oui.
Donc c'est à la fois la chirurgie, comme on l'a pu l'évoquer plusieurs fois, qui aide à la fertilité, qui aide à la gestion des douleurs, mais pas seulement la chirurgie, puisque la chirurgie va enlever l'endométriose dans le ventre, mais ne va pas stopper le mécanisme des règles qui vont continuer à faire évoluer l'endométriose. Donc c'est aussi un traitement médical, bloquer les règles, et puis tout ce qu'il y a autour de la gestion de la douleur par des spécialistes de la douleur, certains médicaments précis, de la gestion de tout retentissement, avec parfois du kiné, de l'ostéopathie, des choses comme ça, l'acupuncture, une alimentation un petit peu différente, c'est vraiment une prise en charge qui doit être, à mon sens, globale et qui n'est probablement pas souvent assez. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, ça se soigne. Il faut voir plusieurs probablement corps de métier, plusieurs médecins, le chirurgien, le gynécologue médical, le médecin de la fertilité, le médecin de la douleur, l'ostéopathe kiné, etc. Et donc pour les voies de recherche, on en parle assez souvent, il y a beaucoup de recherches qui sont faites actuellement sur l'endométriose. Je pense qu'il y a plus de 200 ou 300 études en ce moment sur le plan mondial, sur différents médicaments qui sont testés, sur différentes approches, sur aussi le mécanisme de la douleur, comprendre pourquoi ça arrive, chez quel type de patiente, etc. Oui, la recherche est en cours dans ce domaine de manière assez vive.
La recherche avance. Nous sommes pressés par le temps. Je suis désolé, docteur Benjamin Berlot. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Magali, à Stéphanie, à Leslie de nous avoir appelés. C'est la fin malheureusement de cette émission. Grâce à vos témoignages, nous avons appris combien l'endométriose est une maladie douloureuse, envahissante et difficile à déceler. Chaque femme a ses propres symptômes, mais ce qui est certain, c'est qu'ils rendent le quotidien difficile à vivre. Nous l'avons vu avec Leslie, à cause de l'endométriose, avoir un enfant relève du parcours du combat. On avait aussi Suzy qui nous parlait de l'histoire de sa fille. Différents traitements existent aujourd'hui, c'est ce que soulignait le docteur Merlot, pour soigner l'infertilité et essayer d'atténuer les douleurs qui sont si violentes. Si vous avez des règles anormalement douloureuses ou abondantes, des difficultés pendant l'acte sexuel, vous avez peut-être une endométriose. Plus elle sera prise en charge rapidement, moins elle aura d'impact. Il existe beaucoup plus de cliniques et de médecins qui reconnaissent et prennent en charge aujourd'hui cette maladie. Il existe sur le site de l'association EndoFrance des médecins que vous pouvez consulter et qui sauront vous guider. Vous pouvez continuer à en discuter sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Et si vous le souhaitez, Sophie Peters vous écoute le soir si vous avez envie d'échanger. La libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain, nous parlerons ensemble des enfants précoces, surdoués, aussi dit enfants à haut potentiel. Comment vivre avec cette différence? Surtout, comment la déceler? Si votre enfant est à haut potentiel, si vous soupçonnez votre enfant de l'être, si vous avez vous-même été diagnostiqué à haut potentiel, appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous. Je vous laisse maintenant, à demain, oui, 15h, je vous laisse maintenant avec Laurence Boccolini qui accueille un chanteur hors pair,
Christophe Willem.
Qui a beaucoup d'humour aussi.
Ah bah on l'espère, parce qu'on voudrait passer une heure un peu, tu vois.
Mais normalement, ça va bien se passer.
Je pense qu'on va chanter des trucs aussi.
Bon, c'est
quand
bien.
Vous chantez bien, vous.
Moi oui, mais oui, Anissa aussi. On va faire un groupe d'ailleurs.
Très bien.
D'où la météo.
Avec Mathieu Béliard qui viendra joindre à nous.
Parfait.
Voilà.
Bonne émission, les filles.
Merci.
À demain.
À demain.
Olivier.
Europe 1.